Veille, pardon, des grandes vacances. C'est une période où on réfléchit un petit peu à ce qu'on a fait tous les mois précédents, puisqu'on va pouvoir s'allonger, qui au soleil, qui en marchant dans la montagne, qui sur une chaise longue à la campagne. Nous pourrons réfléchir à tout ce que nous avons vécu, à la façon dont le Seigneur nous a conduits. C'est donc une période où il est bon de réfléchir à la foi qui nous anime. La foi chrétienne et puis notre foi personnelle, comment nous vivons notre vie chrétienne, comment nous nous comportons dans notre relation avec le Christ. Et ce sujet de la tsunamite et de son mari, en tant que couple, ils sont intéressants parce qu'ils expriment une manière de vivre la foi. Incontestablement, ce couple, on peut le dire simplement, c'est un couple qui a la foi. Pourquoi il a la foi? Parce que, dans le fond, quand Élisée passe chez eux, et vous savez qu'un prophète ne rentre pas chez quelqu'un par hasard, sinon c'est plus un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui est dirigé par Dieu, inspiré par lui. Et donc, l'Esprit de Dieu dirige en quelque sorte Élisée chez ce couple, parce que ce couple a la foi et en même temps une immense souffrance. Et c'est l'articulation justement de la foi dans la souffrance que je trouve très intéressante. Cette articulation où malgré l'épreuve que vit ce couple, eh bien ce couple est tourné vers Dieu, est tourné en direction du royaume de Dieu. Et c'est ainsi que l'Écriture nous invite à vivre pour Dieu notre foi, quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer. L'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 5, s'adressant aux chrétiens, dit simplement: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alors évidemment, là, il n'est pas simplement question de la foi en tant que corps doctrinal, mais aussi, est-ce qu'on est vraiment dans la foi, dans la pratique de tous les jours? Est-ce que justement connaissance de Jésus-Christ en tant que sauveur personnel, notre relation avec Dieu en tant que créateur et Père, celui qui nous a adoptés en Christ, eh bien, est-ce que ces réalités ont des conséquences dans notre vie quotidienne? Parce que lorsque la vraie foi, nous habite, elle ne nous laisse pas stériles et oisifs. Au contraire, elle nous engage à l'exemple de ce couple. Qui dit foi dit engagement, qui dit foi dit confiance dit action. Quand on a confiance, on va de l'avant, on se donne, on obéit, on avance. Alors leur foi, ce couple, eh bien, elle s'était traduite par des œuvres à partir desquelles on pouvait évidemment se rendre compte qu'ils avaient la foi. Parce que quand l'homme de Dieu arrive, ils ouvrent leur porte et ils accueillent cet homme. Et traditionnellement, Élisée mangeait à leur table. C'est donc un couple qui est porté sur l'hospitalité. Et porté sur l'hospitalité pour aider Élisée dans son ministère. Mais au bout d'un certain temps, c'est la femme qui, dans le couple, d'après la Bible, au travers de cette histoire, c'est elle qui prend l'initiative. Elle dit à son mari: mais on devrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus important. C'est toujours le même problème avec le Seigneur. Quand on commence à le servir, il va nous amener à aller plus loin. Vous savez, en tant que chrétien, quand on dit: oh, je vais servir le Seigneur, on ne sait jamais dans quoi on s'embarque. Parce qu'avec le Seigneur, vous lui donnez ça, il va vous demander tout le reste, hein. C'est comme ça. D'ailleurs, il nous prévient d'avance, hein. Il nous dit: je me suis offert à vous, je me suis donné pour votre salut. L'Écriture dit: donnez-vous vous-même à Dieu. Alors nous, évidemment, on est un petit peu parfois prudent, puis on se dit: oh là là, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je suis suffisamment spirituel pour prétendre m'engager pour Dieu? Alors, chers amis, ne vous inquiétez pas. À partir du moment où vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes tip-top, comme disent les Suisses. Vous êtes au point pour aller de l'avant. Vous ne vous préoccupez pas de vos incapacités, de vos difficultés, de vos complexes, de que sais-je, mais dites-vous bien que puisque Dieu vous a sauvé, alors on peut aller de l'avant et se mettre à son service. Simplement, la difficulté, c'est que, je vous le répète, avec le Seigneur, c'est tout. C'est tout. Il va tout prendre. Il va... Pourquoi ? Parce qu'il nous aime tellement qu'il veut nous entraîner dans cette intimité avec lui et dans cette vie de foi, cette vie de plénitude du chrétien. Alors, ce n'est pas par égoïsme que Dieu nous veut pour lui tout entier, c'est pour notre bonheur, c'est pour nous. Parce que lui, il est autosuffisant, Dieu, il a besoin de personne. Hein. Vous savez, il pourrait rester quelque part, Dieu, enfin, quelque part, pardonnez-moi, Dieu étant éternel et omniscient, omniprésent, omnipotent, il est partout à la fois, les cieux des cieux ont peine à le contenir, Dieu est autosuffisant. Donc, Dieu n'agit jamais par égoïsme. Il veut notre bonheur, il veut notre plaisir, et il sait que c'est dans une relation d'amour que véritablement les créatures que nous sommes peuvent s'épanouir. Donc Dieu, c'est l'amour, hein. Dieu est amour, dit l'apôtre Jean, et l'amour ne peut pas rester immobile. Quand on aime, eh ben, ça brûle, et puis on a envie de communiquer cet amour à ceux, à l'objet de nos cœurs, et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il va nous attirer toujours davantage dans une pratique de la foi. Pour nous rencontrer, pas pour qu'on fasse des œuvres, hein, mais parce qu'il veut nous rencontrer, avoir cette intimité entre lui et nous. Alors c'est intéressant parce que cette femme, elle réfléchit comme toutes les femmes, et elle est spirituelle, alors elle dit à son mari, on va faire davantage, on va s'engager un peu plus. Et le texte sacré nous dit que cette femme explique à son mari « Et si nous faisions à présent pour lui une petite chambre haute avec des murs ?» Donc il faut construire quelque chose, hein. Ça va donc coûter de l'argent, du temps, etc. « Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. » C'est intéressant parce que, évidemment, ce sont des éléments classiques. Un lit, une table, une chaise, un chandelier, ça nous paraît tellement classique et puis indispensable dans une pièce. Mais en même temps, ces objets expriment tout un symbole dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. D'abord, le lit, c'est le symbole, bien entendu, du repos, mais pas simplement du repos physique. C'est aussi apprendre à se reposer avec Dieu ou en Dieu. Vous savez que Dieu n'est pas là pour nous écraser, nous charger, nous stresser. Le nombre de chrétiens qui sont stressés, ils sont toujours complètement écrasés parce qu'il faut faire des choses pour Dieu, leur conscience leur reproche toutes sortes de choses. Enfin, vous avez l'air en paix, et ça fait du bien de vous regarder, chers amis du Vietnam, mais franchement, les chrétiens français d'origine française, ils sont assez souvent stressés. Alors c'est quand même un comble, le Dieu d'amour qui va stresser ses créatures, vous imaginez le travail, non. Il y a un hiatus quelque part. Pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu du repos dans l'action. Le fait d'obéir au Seigneur et de se laisser conduire avec lui, en lui, se reposer en lui, on peut être parfaitement actif, on peut être parfaitement dans la pratique des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, tout en étant dans le repos. Alors j'expliquais ça ce matin à la fin du culte à un ami sur un banc sur le cours de Vincennes, et il me disait combien il était stressé par le travail et combien sa femme était stressée par le travail, qu'ils ont des responsabilités, et comme ils sont chrétiens, on leur en donne toujours plus. Évidemment ils sont sérieux, évidemment ils arrivent à l'heure, évidemment ils se donnent, ils sont consciencieux, et alors vous savez, pour avoir exercé des responsabilités moi-même dans le domaine professionnel, toute personne consciencieuse, c'est vers elle qu'on va d'abord pour lui donner du travail, parce qu'on ne va pas aller chercher ceux qui font rien, hein, ou qui font mal les choses. Donc, si ça vous arrive en tant que chrétien, vous êtes surchargé, c'est parce que vous êtes bon, parce que vous êtes voire excellent. Et simplement, il va falloir, comme j'essayais d'expliquer ça ce matin à cet ami, apprendre à exercer les responsabilités dans le repos de Dieu, et à ne pas être écrasé par la surcharge. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais ça existe. Hein. Exercer des responsabilités en se déchargeant sur Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça existe. Peut-être qu'un jour, on pourra rentrer dans le sujet un peu plus profondément. Mais le repos, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de repos. Dieu, c'est le spécialiste de l'action et du repos. Et l'Éternel se reposa de toutes ses œuvres. Vous savez que Dieu ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Donc Dieu, il est capable d'être actif et dans le repos. Et donc il va nous communiquer ça, il va communiquer ça à ses enfants. Demandez-le lui et reformulez votre prière le plus autant de fois qu'il faut. Et vous allez voir, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe entre Dieu et vous. Et vous ne devenez ni négligent ni superficiel. Mais vous devenez peut-être encore plus, vous avez encore une plus grande acuité sur la situation, mais vous êtes détendu. Parce que vous savez que Dieu est avec vous et que les choses vont s'accomplir. Et alors les autres vont voir votre paix. Et ils vont voir que vous êtes responsable dans la paix. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils vont être attirés. Parce que vous savez, un chrétien qui est stressé, bah, bon, les gens ils se disent, bon, j'ai pas envie d'être stressé, quoi. Alors, tandis qu'un chrétien dans la paix qui exerce des responsabilités, ça c'est quelque chose. Donc Dieu est capable de faire ça. C'est le symbole du lit. Ensuite, la table, c'est le symbole de la communion personnelle avec Dieu dans notre chambre intérieure. On s'assied devant une table et on marque un temps d'arrêt. C'est soit pour manger, soit pour réfléchir, méditer, etc. Donc, n'oublions pas dans notre vie personnelle, notre chambre intérieure, ce temps passé avec Dieu, qui est le symbole de la table. Voici, je frappe à la porte, hein, dit Jésus dans l'Apocalypse 3:20. Celui qui m'ouvre ira, je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est le temps de la communion, de la méditation, de l'approfondissement de notre intimité avec Dieu. La chaise, c'est le symbole du disciple qui s'assied pour écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir, à un moment donné, il faut s'arrêter. On est toujours très, très pressé. On n'a pas le temps de faire les choses, on n'a pas assez des 12 heures dans la journée. Enfin. Mais il faut savoir prendre le temps. Vous savez, quand on prend le temps avec Dieu, les choses vont beaucoup mieux après. On est moins fatigué, c'est formidable comment tout se met en marche et tout s'harmonise. Pourquoi ? Parce que Dieu attend de chacun d'entre nous ce moment avec lui, personnel, intime, ce temps d'arrêt. Et c'est pour ça qu'un jour Dieu a dit à Israël, alors qu'il venait de les faire sortir d'Égypte avec les 10 plaies, devant la mer qui est fermée, il leur dit... taisez-vous, sachez que je suis Dieu. C'est-à-dire arrêtez, quoi. Et puis après, il va donner à Moïse l'ordre pour ouvrir la mer. Vous savez comment Dieu s'adresse à Israël ? Ils viennent de voir des miracles extraordinaires. Mais ils sont stressés, les pauvres, parce qu'ils ne sont pas habitués à un Dieu aussi merveilleux que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ne le connaissent pas. Alors ils ont eu beau assister à cette formidable délivrance, mais là, ils sont coincés parce qu'il y a la mer. Et ils se disent, comment jamais Dieu va pouvoir nous sortir de là. Et Dieu leur dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et pour savoir que Dieu est Dieu, eh bien, faut s'arrêter. Et s'arrêter, c'est d'un seul coup accepter qu'on ne peut plus rien faire, en quelque sorte. Mais c'est aussi s'arrêter pour prendre le temps de contempler la personne de Dieu. Et ils vont, en s'arrêtant, contempler la puissance de Dieu quand Moïse va lever... ordonner à la mer de s'ouvrir. Hein, et ça va être une expérience dans leur vie d'une connaissance de Dieu, d'une expérience avec Dieu. Alors ça, c'est beau. Et notre ami Élisée, c'est ce qu'il fait en tant que prophète. Il prend du temps avec Dieu. Et il se met à l'écoute de la parole de Dieu. Non pas pour apprendre uniquement des choses intellectuellement parlant, mais pour pénétrer au travers du texte, la personne de Dieu. Parce que quand on lit la Bible, on n'est pas simplement là en train de lire des caractères d'imprimerie pour remplir notre intelligence. On lit la parole pour rencontrer l'auteur. Et c'est ce qui donne une dimension formidable à notre foi et à notre témoignage. C'est quand on parle de l'Écriture, on n'en parle pas d'une manière académique. Nous sommes intelligents, grâce à Dieu, nous avons des tas de connaissances. Vous faites des études... J'ai eu l'occasion d'en faire, on réfléchit à des tas de choses, mais la communication de l'amour et de la personne de Dieu, ça dépasse l'intelligence. Et c'est ce qui va être traduit par l'Esprit de Dieu en nous, quand on prend le temps avec Dieu. Alors les autres, enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit une fois ici, un jour quelqu'un m'a dit, mais t'es amoureux de Dieu. Quand tu parles de Dieu, t'es amoureux. Et puis, 17 ans après, je suis tombé sur quelqu'un d'autre, une jeune fille qui venait d'Albanie, à l'époque où l'Albanie commençait à libérer, enfin, à permettre à certains de s'échapper. Et cette jeune fille, qui n'était pas encore chrétienne, dans un camp chrétien, je lui ai parlé du Seigneur, et elle m'a dit, 17 ans après, hein, cette première déclaration, elle m'a dit, vous êtes amoureux de Dieu. Ah, je me suis dit, ah, c'est super, parce que 17 ans après, j'ai toujours cet amour pour Dieu. Mais j'ai cet amour parce qu'il l'a pour moi, hein. Parce que franchement, c'est lui qui renouvelle toutes ces choses. C'est ça notre force. Et puis le chandelier, ben, c'est un double symbole. Hein. C'est le symbole de la lumière de Dieu, puisque Dieu est lumière. Donc se mettre devant un chandelier, c'est être éclairé. Se mettre en présence de Dieu, s'asseoir sur une chaise devant une table, ben, c'est se laisser sonder par Dieu. Ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours agréable parce que, vous savez, rien n'est caché aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. L'avantage pour nous, c'est qu'il nous aime. Et second avantage, c'est qu'il sait d'avance, et même avant nous, ce qui ne va pas dans nos vies. C'est pas la peine d'essayer de fuir Dieu, ça sert à rien. Vous imaginez, vous, de fuir quelqu'un qui vous connaît? Il sait tout de notre vie. On n'était pas nés qui savait déjà comment, quand on allait venir et comment on serait. Est-ce qu'on allait faire? Est-ce qu'on allait penser? Est-ce qu'on allait dire? Est-ce qu'on allait envisager comme projet? Il sait tout. C'est pas la peine de le fuir, ça sert à rien. C'est pour ça qu'il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Dieu appelle en permanence des gens qui essayent de le fuir. Et vous avez des chrétiens qui fuient le Seigneur. Ça demande un petit discernement pour s'en rendre compte, mais quand on discute avec eux, on se dit, tiens, lui, il fuit. Mais il fuit celui qui voit tout. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il perd son temps. Et c'est le roi David, dans le psaume 139, qui dit, si je vais dans les ténèbres, tu y es. Si je vais au nord, ben, je t'y trouve. Si je vais dans le séjour des morts, t'y voilà. Ben, oui, monsieur, Dieu est partout. Ne fuyons pas le Seigneur. Laissons-nous éclairer, sonder. C'est toujours pour notre bien. C'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour nous écraser, c'est pas pour nous accuser, nous culpabiliser, c'est pour nous délivrer, nous affranchir et nous rendre semblables à l'image de son Fils dans nos corps mortels. Alors, ça, c'est le rendez-vous avec Dieu de la lumière. Et puis, cette lumière qui nous éclaire, la lumière de Dieu qui nous éclaire à l'intérieur, qui nous transforme, c'est ce qu'on a chanté le dernier cantique, hein, tiré de la deuxième épître aux Corinthiens. Et l'Esprit, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit, on a chanté quelque chose comme ça, le dernier cantique, eh bien, ça va nous permettre de luire devant les autres. Parce que quand vous êtes éclairé de l'intérieur, vous ne pouvez pas être éteint de l'extérieur. C'est pas possible. Et c'est un peu l'histoire de Moïse, hein, qui descendait, qui sortait de sa rencontre avec l'Éternel, à l'attente de la rencontre, et qui était obligé de mettre un voile sur son visage, parce qu'il resplendissait de lumière, et donc c'était insoutenable, et en même temps c'était une lumière qui allait en diminuant, parce que c'était l'ancienne alliance. Nous, on resplendit de la lumière de Christ, qui est éternelle, c'est la nouvelle alliance. Donc nous, on n'a pas besoin de se voiler, ça brille tout le temps. Mais ça va illuminer, répandre et diffuser d'autant plus qu'on va prendre le temps. Comme Élisée le faisait, on va prendre le temps. Vous savez, le temps avec Dieu, et on n'a pas besoin de se fatiguer pour témoigner. On n'a pas toujours besoin de se fatiguer. Bon, des fois, il faut le faire. Des fois, il faut y aller, il faut se fatiguer. Mais franchement, le fait d'être habité comme ça, ça rayonne. C'est tout. Alors, c'est le double symbole du chandelier. Lumière extérieure qui rayonne sur... lumière intérieure qui rayonne sur l'extérieur. Donc ce couple, il avait décidé d'aller plus loin dans l'expression de leur foi. Qu'est-ce qu'ils avaient décidé de faire? De s'investir et d'investir. Donc s'investir, donner du temps, préparer des repas, faire le ménage dans la chambre, astiquer les meubles et tout ce que vous voulez, et puis s'investir financièrement. Parce que investir, il fallait acheter. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme dit « mais je suis au milieu de mon peuple ». C'est pas, elle ne fréquente pas les rois, les responsables du pays. Elle a, on peut imaginer des moyens normaux, standards, hein, au niveau de par rapport à son niveau de vie. Mais ils ont décidé par la foi d'investir et de s'investir. C'est-à-dire, comme il est dit dans le Nouveau Testament, c'est pas tellement votre argent qu'on attend, c'est vous. Vous vous êtes d'abord donné vous-même à Dieu. Hein, si je ne me trompe, c'est dans l'épître aux Thessaloniciens, mais j'ai un petit doute là. Mais c'est ça, vous vous êtes d'abord donné vous-même à Dieu avant de donner votre offrande. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Alors, c'est le cas de ce couple. Donc c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous à partir de notre foi, et on peut se poser une question cet après-midi. Jusqu'à quel point me suis-je investi tous ces derniers mois? Et jusqu'à quel point vais-je m'investir dans le futur proche? Voilà une question pour votre été. Je ne voudrais pas pourrir votre été et faire en sorte que vous soyez turlupiné, allongé au soleil sur votre serviette éponge ou que sais-je, mais... Franchement, je crois que c'est le genre de question qu'il faut se poser. Seigneur, et qu'il faut poser au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, conduis-moi à m'investir là où tu veux, comme tu veux. Puis vous allez voir, ça va être pour chacun d'entre nous différent, mais ça va être splendide pour la vie de chacun et pour la vie de la communauté. Oh, c'est bien, je peux en continuer encore. En 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, Paul dit... Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et des exhortations, c'est plus que des exhortations, ce sont des ordres, hein, c'est l'impératif. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alors, c'est vrai qu'il nous faut toujours aller, quand on réfléchit à notre vie, notre relation avec le Seigneur, il faut toujours aller de progrès en progrès. Il ne faut pas en faire une maladie. On n'est pas dans l'introspection. Je ne voudrais surtout pas que vous fassiez de l'introspection. Mais simplement que vous et moi, nous nous présentions devant Dieu en lui disant, Seigneur, je veux aller marcher de progrès en progrès. Conduis-moi. Ah, si vous faites cette prière, ça va faire fort. Hein. Que Dieu va vous prendre au mot. Hein. Vous savez, essayons pas de faire des choses. Demandons à Dieu de faire des choses en nous. Au travers de nous, ça c'est l'évangile. Et ça c'est autre chose. C'est une autre manière de concevoir la vie chrétienne qui, me semble-t-il, est la manière dont la Bible nous la présente. On se donne au Seigneur et lui, hop, hop, il nous dirige et il fait ce qu'il veut avec nous. Et on est toujours heureux, jamais confus. Des difficultés, oui, mais la joie, c'est sûr. Difficulté et joie, c'est garanti. Et plus il y a de difficultés, plus on est joyeux, étrangement. Et plus on grandit dans la connaissance de l'invisible. Mais heureusement, Dieu dose parfaitement ce qui nous convient. Des fois, on a des passages vraiment difficiles, puis d'autres fois, oh, comme disait un jeune, il me dit, en ce moment, ça baigne. Bon, alors, je suis content pour lui. On est vraiment heureux. Donc, il faut aller de progrès en progrès. Demander à Dieu de le faire. Pourquoi ? Parce que Dieu, par la bouche du prophète Jérémie, à un moment donné, il adresse une réflexion forte à Israël, qui se comporte un petit peu n'importe comment. Il dit en Jérémie 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. » Vous voyez, il a fait, mais son cœur n'y est pas. C'était le grand reproche que Dieu adressait à ses enfants, à son peuple d'Israël. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est ça. On peut le faire, je peux le faire. Ça m'est arrivé, hein, dans des périodes où je me posais des tas de questions et dans ma marche chrétienne, je me rendais compte que des fois, bah oui, j'étais capable de faire des choses. Personne ne voyait ce qui se passait au fond de moi, mais j'étais vraiment pas dans le coup, quoi. Alors je surfais sur la vague, quoi, vous voyez. Puis, mais ça va un temps, quoi. Puis Dieu permet, hein, parce que, vous savez, Dieu, il est extraordinaire, quoi. Alors il nous connaît, hein. Mais il y a un moment donné où ça marche plus. Il y a un moment donné, ça marche plus, ce truc-là. On est obligé de se mettre en adéquation avec le Seigneur. Mais réfléchissons à ces choses. Ne soyons pas de ceux qui font avec négligence l'œuvre du Seigneur. Et alors, le secret de tout ça, c'est que pour toute chose, on a besoin du Seigneur. Seigneur, je suis engagé dans un ministère que tu m'as toi-même donné, Mais Seigneur, j'ai besoin aujourd'hui, pour aujourd'hui, j'ai besoin de ta grâce et de ta force pour accomplir ce ministère. Seigneur, tu m'as donné d'être professeur de droit. Bon. T'es prof de droit, toi ? Autant que je m'en souvienne. Eh bien, Seigneur, pour accomplir mon métier, puis le faire pour ta gloire, j'ai besoin de toi. Seigneur, je connais tout mon programme sur le bout des doigts. Je le donne aux étudiants depuis tellement d'années. Mais le Seigneur dit, ne pense pas que tu n'as pas besoin de moi à ce niveau-là. J'ai encore des choses à faire avec toi. Puis, pour une mère de famille, c'est pareil, élever les enfants enfermés dans ses quatre murs, chez elle, c'est pareil, elle a besoin du Seigneur. Et c'est ce qui manifeste la dépendance de Dieu. Si on ne veut pas faire les choses avec négligence, ou risquer de tomber dans la négligence, il faut simplement demander au Seigneur tous les jours, Seigneur, ouais, je pense pouvoir faire des choses, mais je reconnais que j'ai besoin de toi, parce que je peux déraper n'importe comment. Alors, Dieu nous dit ça toujours dans le but de nous gagner, hein, c'est pas pour nous écraser puis nous décourager. Alors, pour terminer, la Tsunamite et son mari, ils avaient une foi désintéressée. Et ça, c'est un des grands secrets de la foi. La vraie foi est désintéressée. On n'accomplit pas des choses pour se faire voir des autres ou pour prétendre à certaines choses. Non. On fait les choses pour Dieu. C'est pour ça qu'il y avait les versets. Tout ce que vous faites, faites-le, non pas pour des hommes, mais pour le Seigneur. On fait les choses pour le Seigneur. Vous savez pourquoi, après 40 ans de vie chrétienne, je suis encore dans la même église ? Que je suis toujours dans la même église, avec un ministère itinérant et tout ce qu'on veut. Heureusement, ça me permet de voir autre chose. Mais franchement, ça fait 40 ans, là, cette année 2009, que le Seigneur m'a sauvé. Je suis né de nouveau dans l'église de Paris Nation. Depuis 20 ans, j'exerce des responsabilités avec d'autres dans cette même église. Et j'ai réfléchi, mais comment se fait-il que j'ai pu tenir 40 ans ? Que, comme m'a dit un chrétien ce matin, Jean, t'as dû en avaler des couleuvres. Il m'a dit ça ce matin avant le culte. Il y a des gars, ils sont excellents. Vous n'avez même pas commencé le culte, ils commencent. Et c'est lui qui m'a amené à penser à tout ça avec sa réflexion. Et je me suis dit, mais c'est parce que dans le fond, merci Seigneur, tu m'as donné, et je souhaite que tu me donnes encore, et toujours jusqu'à ma mort, de vivre pour toi de manière désintéressée. C'est pour toi. Ce qui fait que quand on vous adresse des réflexions, vous n'êtes pas compris ou que les choses ne marchent pas comme vous le pensez, comme vous le souhaiteriez, eh bien quand vous le faites pour le Seigneur, ça ne devient plus un problème. Parce que si c'est pour le Seigneur qui va régler les problèmes, c'est pas vous. Et moi je vois des collègues pasteurs qui passent leur temps à régler les problèmes, ils n'en sortent pas. Moi je ne règle plus rien. Je dis au Seigneur, il y a un problème Seigneur, moi je fais les choses pour toi, occupe-toi de cette affaire. Ça marche, ça marche. C'est pour ça que j'y suis encore. Bon, ce qui est formidable, c'est que avec cette foi désintéressée, il y a sous cette foi, ou au milieu de cette foi, il y a une immense souffrance. Et c'est intéressant parce que Élisée, il se dit, bon, puisqu'on me bénit, je vais essayer de bénir ce couple. Qu'est-ce qu'il faut leur demander ? Ils ont besoin de quoi ? Puis là, Élisée, en tant que prophète, il ne voit pas bien clair. Hein. Il ne voit pas bien clair. Hein. Il ne s'est même pas rendu compte que cette femme n'a pas d'enfant. Alors il lui dit, je vais parler de toi au roi, tout ça. Puis cette femme dit, mais moi, je suis au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, toutes ces histoires d'autorité, de pouvoir et tout, ça ne m'intéresse pas. Et alors là, il y a le serviteur qui dit, mais ils n'ont pas d'enfant. Et la souffrance de ce couple, un couple stérile. Et c'est pour ça que la réaction de la femme est assez exprimée dans le texte sacré. Hein. Quand Élisée lui dit au verset 16-17, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle lui dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Vous voyez, elle dit, « Écoute, je souffre de trop avec cette histoire-là. J'ai prié, Dieu n'a jamais exaucé. Viens pas me chercher sur ce terrain-là. » Je ne sais pas sur quel terrain le Seigneur vient vous chercher ou va venir vous chercher. Mais si quelque part il y a une souffrance chez nous ou quelque chose qui bloque, il va venir. Je ne sais pas quand, mais il va venir. Parce que ça veut dire qu'on a besoin d'être affranchi, délivré, béni. Mais ce qui est remarquable, c'est que cette femme, avec cette souffrance, elle s'engage. Et parce qu'elle est engagée, À un moment donné, Dieu va la bénir. C'est la récompense de la foi désintéressée. Donc elle aura un enfant un an après. Cet enfant va tomber malade et mourir. Hein. Et là, c'est l'épreuve de la foi. Mes dessins, bon, je ne peux pas continuer. L'épreuve de la foi. Peut-être on verra ça la prochaine fois. Que Dieu vous conduise et nous conduise les uns les autres dans cette intimité avec Dieu et cette foi agissante par l'amour, c'est-à-dire une foi désintéressée. Amen.